mot à mot. Mot à mot.
Tu dois dire A, c'est ça?
Tu mets. Ouais, je dis mot, tu dis A mot. Et après, tu dis mot et je dis A mot.
Ah bon, mais il avait dit A.
Je trouve que c'est super comme philosophie.
Mot à mot ou mot à mot.
Nous sommes tous pour autant que ces mots aient un sens précis.
Mot à mot.
Il n'y a que deux syllabes qui valent la peine d'être prononcées. Tu parles sans avoir la moindre idée de ce dont tu parles.
Il n'y a pas de mots pour dire ce que vous êtes. Il n'y a plus de mots.
Vous m'avez dit un tas de foutus trucs. Je vous jure.
Bienvenue dans cette deuxième émission de Mot à Mot, l'émission société et politique qui donne la parole aux jeunes. Que pensent-ils de notre société, de la politique actuelle? Quel est leur ressenti par rapport à leur environnement? Quelles sont leurs attentes, leurs envies dans cette société? Et se sentent-ils vraiment concernés par les discours politiques? Nous essaierons de répondre à ces questions tout au long de cette saison. Aujourd'hui, nous recevons Adrien Boursier, étudiant en communication et médias à l'Université Montpellier 3. Tout de suite, la présentation.
Bonjour.
Bonjour.
Comme vous l'avez dit, je m'appelle Adrien Boursier. Je viens du sud de la France, d'une petite cité balnéaire qui s'appelle Hyères. Elle est assez connue dans le milieu nautique, mais sinon, c'est vraiment une ville de vieux durant l'hiver et de saisonniers durant l'été. Après, j'ai passé un bac économique. Après, j'ai fait une année sabbatique où je suis parti à Londres avec des amis. On a travaillé dans des restaurants et tout. Donc là, on s'est confronté au monde du travail, on a compris qu'en fait, un contrat, il faut le lire avant de le signer. Et après, revenu en France, je voulais faire de l'architecture, mais j'ai été refusé partout, en fait. Donc au mois de septembre, j'avais pas grand-chose. Je suis venu à Montpellier parce que j'aimais bien la ville et j'ai été accepté dans cette formation. Donc au final, maintenant, je suis plutôt content parce que, bon, même si c'est pas une formation qui donne forcément un emploi, au niveau de la culture générale et de la compréhension des médias, c'est vraiment top.
C'est la rubrique Actualité. Alors j'aimerais qu'on aborde la question de l'engagement politique chez les jeunes. Tout d'abord, est-ce que vous faites partie des jeunes qui s'engagent ?
Personnellement, la politique, je vois ça un peu partout, parce qu'au final, c'est au sens noble du terme, ça va être l'organisation de la vie en société, comment est-ce qu'on organise les structures qui vont régir les interactions entre travailleurs, patrons, quoi. Donc c'est venu assez tard, mais ouais, je pense que je suis engagé. Moi, je me suis inscrit chez les Jeunes Insoumis avec Mélenchon, parce que j'adhère à ses idées et j'ai l'impression qu'il a un projet cohérent. Après, j'aimerais faire du bénévolat, travailler dans des associations, mais bon, faudrait que je me motive, faudrait que je dégage du temps pour le faire, et c'est pas quelque chose que j'arrive à faire, en fait. Voilà.
Vous avez toujours été du côté de Mélenchon, ou vous avez eu d'autres partis politiques qui vous ont attiré ?
Mon engagement politique, il est arrivé assez tard. Au final, c'était à peu près l'an dernier. Et j'ai découvert avec la campagne de 2012, notamment durant les débats avant le premier tour. Et son discours m'avait plutôt convaincu parce que il n'était pas seulement sur la forme, en fait. Je trouvais qu'il amenait du fond, il arrivait à étayer des idées. Et vraiment, je trouvais que son but, les autres politiques, j'avais l'impression que leur but était vraiment juste d'obtenir notre voix sans forcément nous apporter un support intellectuel, nous apporter un support de compréhension du monde. Alors que, après c'est mon avis, hein, mais je trouve qu'il donne vraiment des outils de compréhension du monde qui nous entoure. Et donc je trouve ça assez intéressant. Mais oui, au final, oui, c'est avec lui que j'ai pas eu vraiment d'autres inspirations politiques.
Et au niveau de votre famille, vous avez vécu avec la politique quand vous étiez enfant ou pas du tout ?
Non, pas vraiment. Mon père travaillait dans le bâtiment et après il est devenu horticulteur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un métier de l'agriculture. On cultive des arbres ou des fleurs ou des plantes, mais pas de comestibles. Et ma mère était hôtesse de l'air. Donc on a un rapport à la politique qui est pas partisan ou pas avec des personnes. On a un rapport de la politique, je pense comme pour la plupart des jeunes aujourd'hui, qui n'est pas partisan, c'est un rapport à la politique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre vie au quotidien sans forcément se référer à des partis ou des idées.
Et dans une étude récente de 2016 du Crédoc, les chiffres révèlent que l'engagement politique chez les jeunes se fait surtout sur Internet. On serait donc un peu dans un engagement 2.0. Est-ce que Internet est pour vous un biais pour vous engager politiquement via les réseaux sociaux ou autres ?
Totalement, totalement. Déjà au niveau des formats, une émission politique à la télévision ou à la radio, ça peut paraître un peu abrupt parce qu'en général, c'est quelque chose qui est assez long et au niveau du vocabulaire qui est utilisé, c'est pas forcément accessible à tout le monde, alors que grâce notamment au détournement sur YouTube ou sur Facebook, c'est des petites vidéos qui peuvent rendre ça plutôt drôle. Donc ça apporte une approche différente, c'est beaucoup plus accessible et c'est aussi pour ça qu'il faut garder un Internet libre et qu'il soit pas contrôlé. Donc Internet, moi je pense que la plupart des jeunes se politisent grâce à ça, même s'ils n'en ont pas forcément conscience. Et c'est quelque chose qui est vraiment génial, parce que c'est accessible, c'est plutôt simple, et si jamais on veut vraiment rentrer dans le fond, il y a de plus en plus de chaînes politiques qui se créent. Moi ça a aussi commencé avec ça, sur YouTube, c'est un peu connu, mais c'est quelqu'un qui s'appelle Usul, Usul 2000, donc il faisait partie des, du collectif de La Nuit Debout avec Osons Causer, Bonjour Tristesse et beaucoup d'autres. Et pour moi, c'est vraiment ça la politique aujourd'hui, c'est vraiment apporter aux gens des idées, des fonds, des concepts qui leur permettent à eux de choisir vers quelle branche politique ils vont s'orienter. Alors après, c'est vrai que c'est plutôt des mouvements qui sont de gauche parce que c'est des mouvements qui sont plus, on va dire, sociaux et sur la valeur de l'homme plus que sur la valeur du capital ou du produit, mais tant mieux.
Et du coup, sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression d'avoir une proximité avec le candidat ?
Ouais, enfin, notamment Mélenchon par exemple, parce que bon, il est devenu le premier youtubeur politique de France avec ses abonnés et tout, mais enfin, le fait de l'avoir en face caméra, si on est assez distant de la politique, en fait, on a l'impression qu'il nous parle à nous, pas forcément lui, même les autres. Hein. J'adhère pas aux idées du FN, mais par exemple, j'ai oublié son nom.
Philippot.
Voilà, Philippot.
Florian Philippot.
Voilà.
Lui aussi
fait un peu la même. Au final, c'est ils se mettent face à un potentiel électeur et essaient de le convaincre. Et vu que c'est un support qui est différent de la télévision, ça n'a pas du tout les mêmes codes, différent de la radio, donc les codes sont encore différents. Et donc ils sont vraiment en train de changer, et si on leur demande, donc Mélenchon par exemple, il y a beaucoup de gens qui lui ont demandé, et lui il dit en fait, pour faire ça, il s'est inspiré des youtubeurs qui ne faisaient pas forcément de la politique, donc comme Monjoy Phoenix ou des trucs comme ça, il s'inspire de leur façon d'apporter l'information. Donc ça change complètement la façon de faire de la politique et de la voir.
Du coup, vous m'avez parlé de codes, vous trouvez que ces codes sont accessibles pour votre jeunesse par rapport au discours de Mélenchon, que ce soit via l'écrit sur les réseaux sociaux ou même dans des discours oraux, vous avez l'impression que c'est accessible, les codes discursifs ?
Moi, je trouve. Après, je vais pas dire que je suis privilégié, mais bon, étant donné que je suis à la fac, j'ai quand même un peu. Ça donne de la culture, ça donne des clés de compréhension. Mais au niveau du vocabulaire, je trouve que c'est quand même plus simple. Et en tout cas, c'est différent du jargon qui est utilisé habituellement, notamment le jargon journalistique au niveau de certains termes. Ça peut paraître assez dur à comprendre quand même. Donc du coup, je trouve que c'est assez accessible et ça aide pas mal en fait.
Alors les jeunes, effectivement, souvent, on a l'impression qu'ils ne sont pas forcément engagés dans la politique actuelle, dans notre société. Récemment, il y en a un jeune qui a fait l'actualité, c'est celui qui a mis la gifle à Manuel Valls, ancien Premier ministre. Est-ce que ça vous a fait réagir ? Ça vous a interpellé ?
Sur le coup, ça m'a un peu interpellé. Après, ça a beaucoup fait le buzz pour au final pas forcément grand-chose. Et bon, après, la peine qu'il a eue, moi, je trouve pas forcément qu'elle soit justifiée, mais la violence n'amène que la violence, donc c'était pas forcément ce qu'il y avait à faire. Par exemple, il y a 2 semaines plus tôt, si je me trompe pas, il y a quelqu'un qui lui avait lancé de la farine. C'est un geste de violence aussi, mais c'est une violence plus symbolique. Donc au final, plutôt que lui mettre une baffe, s'il avait juste pris une tarte et qu'il lui avait fait exactement la même chose, il l'aurait entartré. Il y avait déjà des gens qui l'avaient fait, notamment au pseudo-philosophe... comment il s'appelle ? Bon, j'ai oublié. Mais s'il l'avait entarté, par exemple, la symbolique aurait été là, ça montait une révolte, et donc ça aurait été... En plus, il n'aurait pas été en prison, donc ça aurait été plutôt pas mal. Je suis pas d'accord avec le fait de lui remettre une gifle, mais je suis d'accord au niveau de la... Parce que Manuel Valls, au niveau des lois qu'il a fait passer, il y a quand même énormément de violence qui est passée. Il a supprimé énormément d'emplois, il a fait monter les divisions dans le pays, il a stigmatisé une religion, donc c'est normal qu'il y ait de la violence qui vienne contre ça. Après, que ça soit une violence verbale, il n'y a pas de souci, une violence symbolique, il n'y a pas de souci. Par contre, une réelle violence avec les mains, non, c'est pas nécessaire.
Vous trouvez que la violence verbale, elle est moins difficile à prendre que la violence physique ? Dans les médias,
non, elle peut être beaucoup plus, mais au niveau des retombées, juste au niveau judiciaire, elle est beaucoup moins sanctionnée. Donc si on veut sanctionner un politique et qu'on veut utiliser la violence pour ça, il vaut mieux utiliser une violence qui va être symbolique, une violence verbale, ou plutôt qu'une violence réelle.
Sujet politique.
Alors, parlons de politique. Question toute simple pour ouvrir cette rubrique. Est-ce que vous avez voté aux primaires, que ce soit les primaires de la droite ou de la gauche ? Et je précise au passage qu'à l'heure où nous enregistrons, on est à la veille du second tour des primaires de la gauche. Donc est-ce que vous vous êtes déplacé pour voter ?
Pas du tout. Pour les primaires de la droite, ça ne m'intéressait pas parce que je ne me reconnais pas dans les idées, dans les valeurs de la droite. Donc je ne voyais pas l'intérêt de leur donner 3 euros pour finir une campagne.
Ouais. 2 euros.
2 euros, ah pardon. 2 euros. Pour une campagne à laquelle j'aspire pas. Et ensuite, au niveau des primaires de la Belle Alliance Populaire, les primaires du PS, parce que pour moi, c'est plus vraiment la gauche. Donc non, ça ne m'intéressait vraiment pas. Puis les candidats qui étaient présentés ne m'intéressaient pas non plus, à part peut-être Benoît Hamon. Parce que pas mal d'idées qui présentent sont des idées en commun avec Mélenchon. Et j'ai trouvé que même les écologistes qui étaient sur la campagne, comme De Rugis par exemple, avaient une vision de l'écologie qui est quand même assez ancienne et qui ne va pas assez loin d'après moi. On reproche souvent à l'écologie en fait d'être des utopistes ou des idéaux, mais si on regarde le monde tel qu'il est en étant pragmatique, avec la crise climatique qui arrive, l'épuisement des ressources, le capitalisme en lui-même, qui est plutôt anti-écologique, ne peut pas continuer comme ça, il n'est pas viable, parce que l'exploitation infinie de ressources définies, ça mène à la ruine, ça mène à la catastrophe. Donc il va falloir changer. Et... Non, je voyais vraiment pas l'intérêt d'aller payer et voter à la primaire de la gauche, alors que pour moi, après c'est un avis personnel, la gauche aujourd'hui est assez représentée grâce au candidat Mélenchon.
Et est-ce que pour vous, cette transversalité des idées, elle est importante et elle apporte quelque chose actuellement ?
Vous pouvez essayer de m'expliquer un peu plus, transversalité.
Oui. Le fait que d'un côté, donc avec ceux qui sont étiquetés gauche, donc qui se présentent aux primaires, et d'autres candidats, vu que vous avez dit que vous étiez peut-être sensible à Benoît Hamon, s'il fallait choisir dans les primaires, parce que ces idées étaient en commun avec celles de Mélenchon.
D'accord.
Et est-ce que pour vous, c'est visible, cette transversalité des idées ?
D'un côté, elle est visible parce qu'on en parle pas mal dans les médias. Et après, des fois, je trouve qu'elle est un peu... Bon, vous me dites si jamais je réponds pas assez à la question, parce que je sais pas si je l'ai vraiment comprise. Mais je trouve que les idées sont souvent détournées. Par exemple, pas mal d'idées présentées par Benoît Hamon étaient déjà présentées dans les campagnes de 2012, dans le programme qu'avait Mélenchon, ou d'autres idées, par exemple de Manuel Valls, étaient déjà présentées par la droite pendant la primaire. Donc oui, il y a des idées qui sont en commun. Aujourd'hui, la politique, elle est en train de bouger. Il y a pas mal de candidats qui s'en servent, comme on peut citer Macron, par exemple, qui se cite ni de droite ni de gauche, et parce qu'il a bien compris qu'aujourd'hui, la méfiance vis-à-vis des politiques vient du fait que les partis sont devenus des organes de pouvoir trop puissants. Et oui, la transversalité, j'arrive pas à le prononcer. Le fait que les idées connectent plusieurs candidats, je trouve que c'est normal et que ça montre que certaines idées sont plus fortes que d'autres. Si plusieurs personnes partagent la même idée, c'est que cette idée est réelle et qu'elle a sans doute une influence qu'il faut prendre en compte.
Et imaginez, si Benoît Hamon donc, remporte les primaires de la gauche, s'il se retrouve face à notre candidat pour les présidentielles et s'il fait une alliance avec Mélenchon, est-ce que vous serez réceptif ?
C'est
quand même son objectif.
Hein. Oui, je vois bien. Mais après, tout dépend comment ils veulent faire la jonction. Parce que moi, j'ai l'impression qu'Hamon veut essayer, en gros, de sauver un peu le PS. Parce que si jamais c'est Valls qui gagne, le PS va devenir en fait un parti réellement social-démocrate qui va se rapprocher plus, enfin après, c'est mon opinion, mais des partis allemands. Voilà. Et c'est pas vraiment ma vision. Après, Benoît Hamon, j'ai l'impression qu'il veut en fait récupérer la dynamique qu'il y a autour de Jean-Luc Mélenchon pour la porter sur lui, mais je pense qu'au niveau des personnes, des idées, Jean-Luc Mélenchon a plus de chances de gagner, même si le personnage est, je peux comprendre, pour beaucoup de gens, est plutôt mauvais. Après, ce qui me dérange avec Benoît Hamon, c'est que son programme, il l'a créé en 2 semaines, 3 semaines, pour pouvoir arriver aux primaires, et beaucoup d'idées sont récupérées, enfin, après c'est mon avis, mais sont récupérées sur le programme qui a été créé par les Insoumis, pas par Jean-Luc Mélenchon, mais par les collectifs de gens tirés au sort ou volontaires pour apporter des idées et créer un programme. Et ça fait au moins un an que c'est en cours. Donc c'est aussi pour ça que je préfère Jean-Luc Mélenchon, c'est parce que c'est un programme qui m'a l'air plus cohérent et qui est élaboré en amont. Ça fait quand même un certain temps qu'il le travaille et la plupart des choses sont chiffrées, c'est cohérent. Donc si Benoît Hamon se met sous l'aile de Mélenchon et qu'il lui apporte son soutien, ça sera avec grand plaisir que j'irai les soutenir. S'il demande à Jean-Luc Mélenchon de se mettre sous son aile, déjà je pense que l'intéressé refusera. Et après, au second tour, on verra.
Un programme élaboré en amont, c'est joli quand même.
Oui,
c'est
quand même
comme jeu de mots spontané. Et vous nous avez parlé d'Emmanuel Macron. Donc ce genre de candidature un peu en marge du système, qui s'étiquette en marge du système et en marge de partis préétablis, est-ce que vous pensez que c'est une nouvelle génération de politiciens ? Est-ce qu'elle vous parle et est-ce qu'elle vous inspire quelque chose ?
Concernant Macron, je pense que c'est vraiment juste un coup médiatique. Il n'a pas vraiment présenté de programme, il a présenté des pseudo-idées. En fait, il récupère ce qui fait marcher électoralement, c'est-à-dire je suis ni de droite, ni de gauche, je suis libéral, mais pas trop, j'aime l'écologie, mais bon, je ne veux pas y me mettre à fond. Moi, je pense que c'est vraiment juste un coup médiatique et je ne vois pas comment il peut arriver au second tour. Ça me fait penser un peu à Balladur, qu'il y avait eu avant, tout le monde l'encensait dans les médias, tout le monde est persuadé qu'il allait arriver au second tour et être président, et au final, il a été battu par Chirac. C'est vieux, donc je connais pas tous les détails, mais je sais que pour moi, ça ressemble vachement à ça. C'est vraiment un coup médiatique. Ensuite, en dehors du système, je vois ce que vous voulez dire, mais pour moi, Macron, c'est vraiment un produit du système et de la technocratie. C'est quelqu'un qui n'a jamais été élu, qui a travaillé dans le système bancaire, donc qui connaît les... Après, c'est un avis personnel encore, mais pour travailler dans le système bancaire, il faut être un peu... Faut pouvoir profiter des gens, sinon on peut pas travailler dans la banque, parce que... Enfin, après, sauf dans les ressources humaines ou la communication, mais pour être banquier d'affaires ou gérer des actions, des portefeuilles d'actions, c'est faire fructifier l'argent de quelqu'un sur le dos de milliers d'autres. Donc pour moi, c'est quelqu'un d'assez dangereux, en fait, au final.
Ce qui est très intéressant, c'est cette manière dont vous arrivez à dissocier l'image donc, de communication du politique, donc son ethos, et vraiment les discours. Et est-ce que pour vous, cette capacité, elle vient d'une action particulière? Est-ce que c'est le fait de s'engager physiquement qui vous aide à faire ce distinguo?
Non, c'est les cours que j'ai à la fac qui m'aident beaucoup. Et en premier lieu, c'est surtout YouTube, en fait, avec ceux que j'avais évoqués avant, les YouTubeurs politiques comme Usul ou tous les autres qui suivent, qui ont été dans le mouvement Nuit Debout. En fait, ils donnent énormément de clés pour décrypter un discours. C'est des vidéos qui font entre 5 et 20 minutes en fonction du temps qu'on veut y consacrer. Et c'est vraiment, ça donne vraiment des clés de... des clés d'analyse qui sont vraiment top. Enfin, il y a des mots qui sont... on peut prendre quoi? Le mot réforme, par exemple. Quand on dit réforme, au final, ça veut dire libéraliser, ça veut dire qu'il faut... ou mondialisation, pareil. Mondialisation, c'est un mot qui veut dire tout et son contraire, au final. Moi, je trouve qu'il y a énormément de mots, en fait, qui sont utilisés parce qu'ils plaisent dans... L'idée qu'ils véhiculent est assez bonne, mais si on les décrypte, au final, c'est quelque chose qui peut paraître assez négatif, quoi.
Tout de suite, la question finale.
Alors, pour clore l'émission, on demande toujours à nos invités, ils sont jeunes, mais peut-être qu'ils ont une inspiration particulière, leurs aînés ou leurs contemporains, qui vous pourriez nous citer en termes d'inspiration?
Moi, j'aime beaucoup la culture hip-hop et le rap, et This Is La Peste, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire, c'est l'un des ou Kerry James, par exemple, c'est des rappeurs qui sont restés vraiment dans la base idéologique du rap, c'est-à-dire un rap de revendication. Et même en dehors de la musique, ils font énormément d'actions, ils ont un discours qui est vraiment top, c'est contre la discrimination, ils montrent, enfin pareil, ils font... On pourrait même prendre ça comme du décryptage politique, surtout pour This Is La Peste, il fait beaucoup d'interviews, bah, pour ceux qui écoutent, allez voir sur YouTube, hein, sur Boscapé, il fait énormément d'interviews et c'est vraiment passionnant, notamment au moment où il y avait la polémique sur le burkini, il a fait une interview qui était magique. Donc ouais, et puis après au niveau politique, Mélenchon, mais sinon c'est plutôt des figures du hip-hop comme This Is La Peste ou Kerry James.
On finira sur ces belles paroles. On remercie Adrien Boursier et on se retrouve la semaine prochaine sur Divergence FM. Mot à mot. Mot à mot.
Tu dois dire A, c'est ça?
Tu mets. Ouais, je dis mot, tu dis A mot. Et après, tu dis mot et je dis A mot.
Ah bon, mais il avait dit A.
Je trouve que c'est super comme philosophie.
Mot à mot ou mot à mot.
Nous sommes tous pour autant que ces mots aient un sens précis.
Mot à mot.
Il n'y a que deux syllabes qui valent la peine d'être prononcées.
Tu parles sans avoir la moindre idée de ce dont tu parles.
Y a pas de mots pour dire ce que vous êtes. Y a plus de mots.
Vous m'avez dit un tas de foutus trucs. Je vous jure.